Pour la prédication du coup de ce matin, nous allons nous pencher sur un texte que l'apôtre Paul a adressé aux chrétiens de la ville d'Éphèse, qui se situe dans l'actuelle Turquie au 1er siècle donc, de notre ère. Et nous verrons combien ce texte nous parle encore aujourd'hui du changement radical que représente le fait d'avoir la foi, une foi personnelle en Jésus, ce qui est signifié par le baptême que nous venons de voir, cette mort et cette résurrection, et vous allez le comprendre en lisant le texte. Éphésiens 2, donc versets 1 à 10, je vous en fais la lecture maintenant. « Autrefois, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. » Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et nos pensées et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. J'ai lu donc dans cette version qui était projetée derrière vous, une version un petit peu peut-être ancienne avec certains mots et certaines tournures un petit peu compliquées, mais on va pouvoir ensemble décortiquer un petit peu ce texte et qu'est-ce qui est le cœur aussi de ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire par ces quelques phrases. Mais tout d'abord, j'aimerais dire que découvrir l'amour est quelque chose qui change une vie. Dans ma vie personnelle, il y a eu clairement un avant et un après ma rencontre avec Noémie Gréder, qui s'appelait Gréder à l'époque, voilà, et qui est devenue ma femme. Ma vie n'était pas la même avant et après. Et c'est vrai aussi, et c'est même encore plus vrai, pour notre rencontre avec l'amour de Dieu. Il y a un avant et un après. Et c'est le sens du baptême qui est le signe de cette nouvelle vie qui commence avec Dieu lorsqu'on a compris l'amour de Dieu pour soi et qu'on l'a accepté personnellement. L'amour de Dieu dans ce texte est à la base d'un changement. Ce n'est pas simplement recevoir quelque chose, mais c'est une invitation à changer, à vivre une vie nouvelle, un changement possible dans la vie d'un être humain. Il y a un avant, et cet avant, Paul le décrit en disant « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes ». Il s'adresse à des chrétiens d'une église, comme je l'ai déjà dit, et il dit « Mais autrefois, avant de connaître l'amour de Dieu, vous étiez comme morts spirituellement à cause de vos fautes ». Et la description va continuer et se terminer par cette conclusion, nous méritions la colère de Dieu. Et ensuite, il y a un après. Mais Dieu est riche en pitié, et un peu plus loin, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Autrement dit, autrefois, selon le vocabulaire de l'apôtre Paul, nous étions morts, maintenant nous sommes vivants, et le fait d'être plongés dans l'eau et d'en ressortir symbolise cette réalité spirituelle. On est mort quand on est plongé dans l'eau, et quand on ressort, on ressuscite spirituellement avec Jésus-Christ. Et c'est pourquoi dans toutes les églises évangéliques, le baptême est pour ceux qui le demandent et pour ceux qui ont la foi et qui peuvent témoigner de cette foi, afin que le signe du baptême renvoie à une réalité personnel. Et c'est ce que Thibaut nous a bien expliqué, et il a témoigné par la parole et par le geste de cette nouvelle naissance, de cette vie nouvelle qui commence à partir du moment où on a compris l'amour de Dieu pour soi. La vie chrétienne est une vie nouvelle et elle ne débute pas avec le baptême, mais avec cette conversion du cœur à Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus disait à Nicodème, un chef juif, il lui disait « Je te le dis, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau », du verbe « naître de nouveau ». C'est aussi le baptême qui symbolise cela, une nouvelle naissance. Si on ne naît pas chrétien, d'après l'enseignement biblique, on ne naît pas chrétien, on le devient. On peut naître dans une famille avec des parents chrétiens, dans un pays de tradition et de culture chrétienne, sans pour autant croire personnellement. Car Dieu ne s'impose pas dans nos vies. Il veut une relation avec nous, une relation qui soit libre. Et cette relation passe par une décision personnelle, la nouvelle naissance, et même, nous dit Paul dans ce texte, une résurrection spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de changer de vie et de choisir une vie meilleure, mais il s'agit de passer spirituellement de la mort à la vie. Et la vie chrétienne est alors perçue comme une expérience de résurrection grâce à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement d'avoir donné son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité il y a 2000 ans, c'est aussi nous rendre aujourd'hui participants de cette mort et de cette résurrection. La vie chrétienne à laquelle l'Évangile nous appelle, c'est une vie de changement, de résurrection, d'évolution permanente au contact de l'amour de Dieu. Et ce qui nous fait vivre notre force vitale, le sang, on pourrait presque dire, qui coule dans nos veines spirituelles, c'est celui de l'amour de Dieu. Et un seul terme ne suffira pas à Paul dans ce court passage pour décrire ce qu'est l'amour de Dieu. Alors déjà, il a une expression un peu lourde même, hein, il dit « le grand amour dont il nous a aimés hein, ». Il ne peut pas se priver dans un petit morceau de phrase de mettre deux mentions de l'amour de Dieu tellement c'est important pour lui. Et il utilise plus loin le terme « pitié », qui est traduit aussi par « compassion » ou par « miséricorde ». Et pour compléter encore, Paul va parler de la bonté de Dieu et à trois reprises de la grâce de Dieu. Et tous ces termes-là, donc l'amour, la pitié, la compassion, la miséricorde, la bonté et la grâce, finalement renvoient à la même réalité de l'être suprême, Dieu. Le terme le plus englobant et qui résume un petit peu tout ça, ça va être l'amour. L'amour qui est plus que l'amour sentimental, évidemment. Et c'est un terme que les auteurs du Nouveau Testament aiment utiliser, le terme en grec « agapé », qu'ils ont choisi pour décrire l'amour de Dieu, l'expression même de la personne de Dieu, puisque selon l'apôtre Jean, et là je cite donc un autre apôtre, « Dieu est amour ». Et dans notre texte, Paul le dit avec une certaine emphase, « à cause du grand amour dont il nous a aimés, cet amour de Dieu qui se décline sous trois formes, donc la pitié, la bonté et la grâce ». Alors la pitié ou la compassion, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour qui nous pousse à venir en aide à ceux qui sont dans la détresse. Dieu ne veut pas nous laisser dans cette situation de vie sans lui, qui est la mort spirituelle. Autrefois, vous étiez mort. Et Dieu ne peut se satisfaire de cela. Alors, dans son amour, il prend pitié de nous, il a compassion de nous, et il met en œuvre un projet de salut. Et ce projet de salut aboutit à la croix, lorsque Jésus-Christ donne sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Et il dira d'ailleurs, Jésus-Christ, sur la croix, dans des souffrances atroces, « Tout est accompli. » L'homme peut de nouveau se tourner vers moi, être réconcilié avec Dieu. La bonté, maintenant, c'est l'amour, une facette de l'amour qui se montre généreux. La bonté associée à la richesse extraordinaire de la grâce de Dieu. Ce sont les bienfaits de Dieu qui sont répandus sur tous, comme quand Jésus dit « Il fait lever son soleil, en parlant de Dieu, sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Et quant à la grâce, eh bien, la grâce renvoie à la notion de cadeau, de don gratuit de Dieu. Elle est associée deux fois justement au salut, au fait d'appartenir à Dieu, et une fois à l'abondance de la bonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. La grâce est la réponse de Dieu à notre culpabilité. La solution de Dieu au péché, c'est le pardon. Son pardon, sa grâce. Donc la pitié, la bonté, la grâce, trois facettes de l'amour de Dieu qui qualifient cet amour de Dieu manifesté dans l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il a eu pitié de nous. Il est venu à notre secours en se faisant serviteur. Il est cet homme tombé du ciel, ce maillon manquant entre l'humanité séparée de Dieu et la sainteté de Dieu. Lui qui a été fait homme et qui est Dieu aussi. Il a eu pitié de nous, il est venu à notre secours en se faisant serviteur et dans sa bonté, il a tout donné jusqu'à sa propre vie. Sa grâce s'est manifestée de la façon la plus forte dans son sacrifice à la croix, allant jusqu'à dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parler de l'amour de Dieu, ce n'est donc pas simplement parler du bon Dieu. C'est parler de la façon concrète dont Dieu a témoigné dans l'histoire, il y a 2000 ans, de son amour envers nous. C'est parler d'un amour à multiples facettes, la pitié, la bonté, la grâce. Et il y en a d'autres encore que nous sommes appelés à découvrir tout au long de notre vie chrétienne. Si Paul a décrit la nouvelle vie reçue en Christ comme une résurrection, il va même la comparer à une nouvelle création. Et il dit, je recite quelques versets, « Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. » L'image est aussi forte et traduit aussi cette nouveauté radicale que représente la vie chrétienne. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons été créés en Jésus, pour mener une vie riche en actions bonnes, des actions que Dieu a préparées pour nous, des nouvelles créatures qui doivent donc agir en conséquence et mener une vie nouvelle. Alors il faut bien comprendre cette expression, Paul n'est pas en train de dire qu'il aurait établi une liste, que Dieu aurait établi une liste de choses à faire, ses œuvres préparées d'avance, voilà, tu feras ceci, cela, etc. Allez-y, j'ai préparé la liste, maintenant débrouillez-vous. Non, Dieu ne prépare pas une liste, il prépare notre cœur, il façonne notre personne, il nous transforme, si bien qu'on nous sommes son ouvrage. Et c'est nous qui pratiquons ces œuvres, mais grâce à l'amour de Dieu. Ces œuvres bonnes sont des fruits de l'amour de Dieu dans notre vie. Il y a donc un lien entre l'amour de Dieu et les œuvres bonnes que nous sommes appelés à faire. C'est l'amour de Dieu qui inspire notre amour envers notre prochain. Et on peut donc reprendre aussi ces trois facettes de l'amour de Dieu, la pitié, la bonté, la grâce, la pitié ou la compassion, va nous conduire à prendre soin, à notre tour, ayant reçu cet amour de Dieu, prendre soin de ceux qui souffrent, de notre prochain qui est dans la détresse. Et franchement, ce ne sont pas les occasions qui manquent. Il y a toujours autour de nous quelqu'un qui a besoin de nous, de notre aide, de notre écoute, de notre prière. La bonté de Dieu, reçue, nous invite à la générosité à notre tour. Dans la perspective du royaume de Dieu, on n'est pas riche lorsqu'on possède beaucoup de choses. On est riche lorsqu'on partage beaucoup de choses. Et je ne parle pas ici seulement de notre porte-monnaie, même s'il est aussi concerné, mais je veux parler du temps qu'on consacre aux autres, de l'ouverture dont on fait preuve, de l'accueil que l'on réserve à notre prochain, un accueil empreint de bonté. Et la grâce maintenant de Dieu nous pousse aussi, à notre tour, à la gratuité. L'amour véritable est gratuit. C'est quelque chose qui se donne et lorsqu'on le donne d'ailleurs, on en a encore plus à donner. Ce n'est pas quelque chose qui attend en retour. L'amour ne calcule pas, il n'attend rien en retour. Nous avons tellement besoin de gratuité, de cette notion d'amour désintéressé dans nos relations. Et une des expressions ultimes de la gratuité, c'est le pardon. Le pardon offert, le pardon reçu, que nous puissions le vivre. Amen. Et je nous invite à partager maintenant les éléments de la scène, parce que c'est justement de ce pardon offert et reçu dont il est question lorsqu'on prend la scène, le repas du Seigneur. La scène, c'est un moment que Jésus nous a laissé pour que nous nous souvenions de façon régulière de lui, de ce qu'il a fait pour nous, de l'exemple qu'il nous a laissé. Par la scène, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, sacrifice unique qui sauve ceux qui placent leur confiance en Dieu, le cœur repentant. Et en prenant la scène, donc je montre, je témoigne que je suis de ceux qui ont reçu le pardon offert, de ceux qui mènent désormais une vie nouvelle, remplie de l'amour de Dieu et de ses fruits, avec le Seigneur Jésus au centre. Donc j'invite tous ceux qui souhaitent témoigner ainsi du pardon reçu en Jésus-Christ à se lever et partager les éléments qui vont circuler dans les rangs dans quelques instants. Et ceux qui n'ont pas fait encore l'expérience du pardon de Dieu pourront simplement laisser passer le pain et le vin. Je vais encore prier et voilà si les personnes chargées du partage des éléments veulent bien maintenant s'avancer aussi. Merci Seigneur pour ton salut gratuit en Jésus dont nous nous souvenons en partageant le pain et le vin, que voilà, ce moment, nous, pendant ce temps solennel, nous puissions voilà, nous souvenir de toi, de l'exemple que tu nous as laissé, du sacrifice auquel tu as consenti par amour pour nous réconcilier avec le Père céleste. Notre Dieu, nous te louons et nous t'adorons. Amen.